Livre 2, chapitre 12. Seconde aventure. Le premier pas était dur. Il s'agissait purement et simplement de violer le domicile d'Edmé et de sa mère. Et Michel avait grand-peur de Madame Lebert, si digne, si résignée, si vénérable dans son indigence. Vrai, cette radieuse Madame Schwartz lui inspirait moins d'effroi. Au moins, elle était riche. Vous eussiez pris Michel pour un malfaiteur précoce la première fois que, profitant du sommeil de la mère d'Edmé, il tourna sans bruit la clé dans la serrure. On ne sait pas comment s'accomplissent ces actes de courage. Michel, quand la porte s'ouvrit, criant un peu sur ses gonds, se sentit défaillir. Il avança pourtant. Le foyer froid avait comme d'habitude deux tisons disjoints qui se consumaient lentement. Michel jeta dessus une poignée de son fagot, et par-dessus encore, il mit quatre bons rondins destinés à son poêle. Et il se sauva, le coquin. Par le pertuis, il vit l'incendie fumer, puis s'allumer. Madame Lebert ne s'éveilla point au gai pétillement du fagot. Ce fut une splendide flambée, et Michel dansa un petit peu dans sa chambre, tant il avait le cœur léger. Quand Edmé rentra, tout était fini. Et le foyer avait repris son aspect modeste, mais elle dit « Il fait bon ici, mère. » Michel ne dansa plus. Il s'assit sur le pied de son lit, étonné qu'il était d'avoir des larmes plein les yeux. Il mordit à l'étude en ces temps-là comme un furieux. Il avait en vérité l'idée d'être quelque chose. La chambre des voisines était toute petite et gardait la chaleur acquise comme une boîte. Ce soir, sur le piano ragaillardi, les jolis doigts d'Edmé couraient aussi blancs que d'ivoire. Quel rapport entre ses doigts mignons et la pensée ambitieuse qui vaguement germait dans l'âme de Michel? Les supercheries de Michel à l'endroit de ses voisines fleurirent pendant 15 grands jours, juste le temps des fortes gelées. La mère et la fille s'étonnèrent bien quelquefois de trouver, chaque soir, la température adoucie. Et plus d'une fois aussi, le foyer plein de cendres faillit trahir la coupable intrusion du voisin. Mais l'esprit ne va jamais vers l'impossible. Comment croire? Comment soupçonner même? Michel, dont le poil vierge n'avait pas brûlé une allumette, s'enhardissait et arrivait à formuler en lui-même des réponses aussi sensées qu'honorables pour le cas où la bonne dame, s'éveillant en sursaut, surprendrait son flagrant délit. Mais vous savez le sort des réponses préparées. Elle bâillonne les questions. Un soir que Michel, agenouillé devant la cheminée, soufflait à plein poumon le feu rétif, un grand cri le releva terrifié. Mademoiselle Lebert, hélas, plus effrayée que lui, était déjà dans le corridor et criait au voleur de toute sa force. Émeute des voisins, remue ménage général, scandale! Il y eut des gardes nationaux qui vinrent avec leurs fusils. Michel, appréhendé au corps, n'avait plus de parole. On allait le conduire en prison. Lorsque Edmé, rentrant à l'improviste, devina l'énigme en voyant le beau feu qui brûlait dans la cheminée. « Mère, dit-elle, c'est la fée !»« La fée, vous comprenez bien, la douce chaleur qui pénétrait le soir dans la mansarde, le farfadet bienfaisant qui empêchait des gracieux doigts de rougir en tourmentant le froid ivoire. Edmé avait deviné, Michel était tout cela. » Mais c'était elle, c'était plutôt Edmé Lebert qui était la fée. Ce simple mot fut un coup de baguette. Les écailles, accumulées par la peur sur les yeux de la digne dame, tombèrent. Qu'avait-elle vu en s'éveillant? Un enfant agenouillé près du foyer où le feu flambait maintenant. Elle s'élança, elle arracha Michel à ses persécuteurs, elle s'accusa, elle expliqua. Oh, la précieuse anecdote à mettre dans la patrie, journal du soir. Les voisines, c'est de la poudre fulminante. L'attendrissement fit explosion. Les fusils se cachèrent tout honteux. La garde nationale, émue, parla du prix Montyon, heureuse idée qui prévient les collectes, danger de l'enthousiasme, et le concierge dit « Aussi ça m'étonnait, ces gens-là n'ont pas de quoi qu'on les vole. » Dans ces rassemblements de locataires, le concierge est la voix de la raison. Le concierge ajouta « N'empêche que le gamin fait ses charités avec le bois de monsieur le baron. » Car il était baron, monsieur Schwartz, depuis un mois. Domergue parut, attiré par le bruit. Devant Domergue, l'éclat du concierge pâlissait. La simplicité va bien au grand. Nous ne saurions exprimer le gré qu'on savait à Domergue de ne porter ni broderie, ni écharpe, ni décoration, ni plumet insolent à sa casquette. Sous l'austérité de sa livrée gris de fer, Domergue était un demi-dieu. Protection oblige, Domergue aimait Michel sans trop se l'avouer à lui-même. Il s'exprima ainsi, accompagnant ses paroles d'un geste sobre et noble. « Messieurs et dames, monsieur le baron et madame la baronne ne veulent pas de tapage dans une maison bien tenue, jusqu'à l'époque de leur déménagement pour entrer en possession de l'hôtel, tout près des lors et parachevé, mais duquel il faut laisser sécher les plâtres, toujours nuisibles au rhumatisme ou fraîcheur dans le neuf à cause de la saison d'hiver. Vous l'avez fait dans une bonne intention d'arriver quand on crie au voleur. Nonobstant, je réponds de l'enfant pour sa généreuse action, qui n'a pas eu besoin de se procurer le combustible aux dépens de l'intégrité, car il a le bois de chez nous comme la nourriture en abondance. C'est de rentrer chacun chez soi. Il est beau d'unir à une haute influence le don si rare de la parole. Les dames laissèrent échapper un murmure flatteur, et spontanément, l'autre sexe présenta les armes. Monsieur Domergue prit Michel par l'oreille et le conduisit chez Monsieur Schwartz. Dans la maison Schwartz, c'était la floraison et l'opulence, l'épanouissement, la vraie lune de miel de ces bienheureux qui épousent un jour la déesse Fortune. La fortune s'était hautement déclarée pour Monsieur Schwartz. Ce n'était déjà plus un millionnaire au tas. Monsieur Schwartz était millionnaire d'une façon éclatante, européenne. Il comptait parmi les têtes de la finance. On pouvait déjà fixer le jour où il allait devenir un million politique. Avoir des millions est un incontestable plaisir. Être baron depuis un mois peut passer aussi pour une volupté très grande. Comme monsieur le baron n'était pas méchant le moins du monde, naturellement, comme madame la baronne, chère et charmante femme, n'avait que de bienveillants instincts, un vent de mansuétude et de miséricorde soufflait chez eux. Il leur semblait que l'univers entier devait sourire à leur gloire, et le bataillon des flatteurs, qui ne manqua aucune prospérité, faisait ses orges grassement à l'hôtel. La maison Schwartz était de bonne humeur. Michel arriva au salon, l'oreille dans la main de Domergue. Domergue ayant obtenu la permission de parler, mit dans son récit toute l'éloquence que la nature lui avait départie. C'était ici le second volume de l'histoire du fagot si favorablement accueilli 15 jours auparavant. On constata que le petit poêle de fonte n'avait même pas été allumé. Michel fut lion. Monsieur le baron se mit en tête de faire de lui un homme, c'est-à-dire un banquier, et une partie de sa faveur nouvelle rejaillit sur les voisines de la mansarde. Au premier aspect, il semble facile de faire du bien à des gens si pauvres que ceux-là. C'était difficile pourtant. Madame Lebert n'eut point accepté une aumône, si bien déguisée qu'elle fût. Mais il y avait Blanche. Aimée, à 10 ans qu'elle avait, lui donna des leçons de piano. Quant à Michel, qui n'était pas fier, on lui mit sur le corps des habits de petit monsieur, et on l'envoya à l'école du commerce. Il n'avait pas encore parlé à Aimée, mais Madame Lebert, le rencontrant une fois dans l'escalier, l'avait embrassé à pleines joues en lui souhaitant du bonheur. Michel avait 3 amis chez les Schwartz. Domergue en première ligne, Blanche ensuite, en 3e lieu le baron. Le commun des mortels ne sait pas tout ce qu'il entre le caprice dans les déterminations des personnes très riches, surtout des personnes très enrichies. La satiété vient beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Non pas la satiété dans l'acquisition, mais la satiété dans la jouissance. Monsieur Schwartz avait un impérieux besoin d'amusette, et Michel était pour lui un joujou de premier choix. Dès ce premier instant, l'idée naquit en lui de produire un chef-d'œuvre, de créer de toutes pièces le Napoléon des banquiers. Il se regardait, lui, Monsieur Schwartz, et non sans quelque raison, comme l'égal des Rothschild, à peu près. Ce n'était pas assez. Étant accepté qu'un Rothschild est la plus grosse artillerie de la finance, Monsieur Schwartz voulait perfectionner encore cette merveilleuse machine, rayer cet admirable canon et lui donner une portée décuple. Seule Madame Schwartz, en ses premiers jours, ne montra à Michel qu'une souriante et calme bienveillance. Elle était fort loin, assurément, de contrecarrer les beaux projets de son mari, mais elle n'y participait point. Elle avait sa fille. Madame Schwartz était de ces femmes qu'on ne peut dessiner d'un trait ni raconter d'un mot. Nous savons que sa beauté atteignait à la splendeur et que son esprit valait son visage. Elle avait le cœur grand, mais malheureux, vous l'aurez dit. Ses goûts, ses instincts et aussi ses manières étaient fort supérieurs au monde qu'elle voyait. Et cependant, le niveau du monde qu'elle voyait s'élevait sans cesse à mesure que l'importance financière de M. Schwartz montait aussi, tout en élargissant sa base. M. Schwartz l'admirait et l'adorait, quoiqu'il essayât de temps à autre, pour son honneur et son crédit, quelques fastueuses excursions en dehors du domaine conjugal. L'opéra pose la banque. Il faut un grain de vice. Dans notre belle France, dès qu'on dit de quelqu'un « bon père, bon époux », cela sent l'épitaphe. Nous sommes le plus ravissant des peuples. Les folies de M. Schwartz n'allaient pas très loin. Il établissait de temps en temps un compte courant de galanterie avec une personne en position de le compromettre suffisamment mais décemment. Tout le monde y gagnait, surtout le bijoutier. M. Schwartz, ayant ainsi fait ses farces, revenait en catimini aux genoux de Mme Schwartz. M. Schwartz, homme d'intelligence et d'expérience, sentait la supériorité de sa femme, au point de vue de la race et de l'instinct. Les admirations de Marie s'égarent souvent, mais M. Schwartz ne se trompait point. Sa femme était une grande dame, indépendamment même de la fortune conquise et du titre de baronne, trop battant neuf. Les parures et les cachemires n'y faisaient rien, non plus les équipages. À pied, avec un châle de laine et une robe de percale, Mme Schwartz eût encore été une grande dame. M. Schwartz l'aimait deux fois, d'amour et d'orgueil. Elle était en même temps son bonheur et le lustre de sa maison. Dans tout l'amour, l'analyse découvre beaucoup de choses et de curieuses choses. Il n'y a pas au monde deux amours semblables. M. Schwartz aimait passionnément à sa manière, et il était jaloux, bien qu'il eût confiance. Le baron Schwartz était jaloux, parce qu'il y avait en sa femme tout un côté qui lui échappait. Nous ne le donnons pas pour un grand homme, et pourtant, il avait des petitesses de géant. Il était curieux, furteur, indiscret, violateur de menus mystères. Pour connaître mieux sa femme, double étude, facile par place, mais au total impossible. L'appartement de sa femme avait son petit coin fermé. Si le caractère présentait un rébus à deviner, certains tiroirs montraient une impertinente serrure dont la clé ne traînait jamais. Jamais, depuis des années. Dans une chambre où chaque chose traînait à son tour. M. Schwartz avait confiance, mais il était jaloux. Qu'y avait-il dans ce tiroir? Et pourquoi Mme Schwartz se rêvait-elle? On peut résoudre la plupart des problèmes par ce vague mot, caprice. Mais autant vaut ne rien résoudre du tout. Le mot caprice lui-même est encore une serrure. Il y faudrait une clé. L'humeur de Mme Schwartz était douce et remarquablement égale. Cependant, selon l'expression de Mme Sicard, sa camériste, il lui passait des tristesses. Ça avait été toujours ainsi. M. Schwartz pouvait même se souvenir de ce fait, que les tristesses étaient plus fréquentes et plus durables avant le mariage. Après la naissance de Blanche, pure et grande joie, il y avait eu guérison apparente. Mais les tristesses étaient revenues et avaient poursuivi l'heureuse mère jusqu'au berceau de son enfant. Quand Blanche était toute petite, elle disait parfois à M. Schwartz « Mère a pleuré ». Les médecins sont admirables pour expliquer les femmes au mari. Rien qu'à ce titre, je les proclame bienfaiteurs de l'humanité. M. Schwartz avait un faible pour les explications des médecins, mais il restait jaloux. Les médecins lui disaient « C'est le foie ». Quel criminel que ce foie! Et il citait des anecdotes on ne peut plus intéressantes. Il y avait des semaines où Madame la Baronne était folle du monde, la rate. D'autres semaines où le monde lui faisait horreur, le foie. De même pour la toilette. On avait découvert en elle, rarement il est vrai, une sorte de colère sourde contre Blanche, sa fille bien-aimée. Le médecin disait, un homme charmant cravaté en amour, « J'ai connu en 1829 une jeune femme très bien née, etc. » Celle-là, c'était l'estomac. On passerait volontiers ses jours et ses nuits avec un médecin chantant les bons tours du foie, de l'estomac et de la rate. Mais cela ne va pas à la cheville des docteurs poètes qui cultivent l'hystérie. M. Schwartz surveillait sa femme, ou, pour mieux dire, son attrait eût été de l'espionner à fond, minutieusement, et selon l'art des maris jaloux qui ont confiance. mais il faut pour cela le temps, et le temps est argent. Monsieur Schwartz faisait comme nous tous, le malheureux. Au lieu de se divertir à éclairer sa femme, il était obligé de gagner de l'argent. Il gardait donc sa confiance et ses doutes, s'informant à bâton rompu, et garant sa dignité jusqu'à interroger Madame Sicaret d'Omergue, qui n'en savait pas plus long que lui. La conduite de Madame Schwartz, pour ses gens comme pour le monde, présentait un aspect tout uni. Elle ne sortait guère qu'en voiture, et la voiture d'une femme, c'est encore son chez-soi. Elle ne voyait que les amis de son mari, et sa conduite, dans le sens vulgaire appliqué à ce mot, était à 100 coudées au-dessus du soupçon. Cependant, pour le monde, pour ses gens, pour son mari, Madame Schwartz dégageait je ne sais quelle impression fugitive et subtile, ce quelque chose de souverainement indéfinissable, ce vague effluve, ce parfum de la femme qui a un secret. Monsieur Schwartz, nous devons le dire, lui sut mauvais gré de sa froideur vis-à-vis du héros Michel. Il avait besoin qu'on épousât ses fantaisies, et il attribua l'indifférence de sa femme à ses fameuses préoccupations, qui étaient peut-être sous clé dans le tiroir du milieu. Il commit beaucoup de petites scélératesses pour conquérir cette clé invisible, et ne réussit point. Par rapport à nos personnages, les choses allaient ainsi dans la maison Schwartz. Michel était à l'école du commerce où il faisait de très rapides progrès. Edmé donnait des leçons de piano à Blanche qu'il aimait comme une sœur aînée. L'aisance entrait chez les Lebert. Nul n'approchait de Madame Schwartz sans ressentir les effets de sa généreuse bonté. Edmé grandissait comme artiste. C'était une noble et charmante fille, et déjà, dans ses grands yeux d'un azur profond, il y avait l'âme d'une femme. Michel s'était rencontré périodiquement avec elle une fois toutes les quinzaines depuis l'aventure du fagot. Il ne s'était jamais parlé seul à seul. Je crois que l'amour peut naître dans les cœurs enfants, et c'est une délicieuse chose que cette floraison lente du sentiment qui doit remplir la vie. La vue de Michel faisait rougir Edmé. Quand elle chantait devant lui, sa voix tremblante avait d'autres accents. Michel travaillait 15 grands jours pour vivre quelques heures. Son effet avait un but. Il aimait déjà comme un homme, il le savait. Edmé ne savait pas encore. Quand Michel eut 16 ans, M. Schwartz l'examina et fut pris d'un naïf orgueil à l'aspect de ce qu'il crut être son ouvrage. Michel avait marché à pas de géant. C'était d'une intelligence robuste, vive, précise. Il s'était joué littéralement des difficultés de l'étude, et l'école du commerce ne lui pouvait plus rien apprendre. « Digne d'entrer dans mes bureaux ?» lui dit M. Schwartz. Michel était véritablement un beau jeune homme, grand, svelte, gracieux de taille, portant sur son visage imberbe une gaieté vaillante et distinguée. Le jour où il abandonna le frac bleu du collégien pour prendre l'élégant uniforme de notre monde, transition fâcheuse d'ordinaire, il produisit une véritable sensation dans le salon de Madame la Baronne. Les femmes le remarquèrent, rêvant peut-être une éducation à parfaire, et nul parmi ces messieurs ne s'avisa de railler. Edmé fut toute glorieuse et à bien meilleur titre que M. Schwartz. Et pourtant, M. Schwartz était plus glorieux qu'Edmé elle-même. Il avait les capricieux enthousiasmes des arrivées. Il dit à sa femme en lui montrant notre héros, « Mon œuvre, un mari pour notre Blanche, idée !» Madame Schwartz eut un de ses beaux sourires et regarda Michel attentivement pour la première fois peut-être. Edmé entendit, elle entendait tout ce qui se disait de Michel. Elle devint plus pâle qu'une morte.